vous avez le pied au niveau de la chaussure. On reste dans le cadre d'une finale, je n'en veux plus. C'est clair ?
Voilà. Non, je n'ai pas touché.
C'est déjà
goal. Non.
Salut tout le monde, c'est Abdallah et vous écoutez Banquette, votre podcast foot, culture et société. Dans ce nouvel épisode, je reçois une figure bien connue de la Ligue 1 des années 2000, à l'époque où Lens, le club pour lequel il a joué et qu'il a révélé, était encore une grosse écurie de notre championnat. Gardien de but devenu célèbre après sa fameuse gestuelle sur sa ligne de but lors d'un penalty, Charlie Tange est l'invité de ce 55e épisode de Banquette. Avec cet enfant du 9-3, comme moi, on a parlé de plein de choses, en vrac comme ça, le RC Lens évidemment, le football amateur à Versailles, son club actuel, la dépression dans le foot et le Cameroun, l'équipe nationale pour laquelle il a joué, avec aussi un peu de chambrage par-ci par-là. Bref, je ne vous en dis pas plus et je vous laisse découvrir tout ça dans ce nouvel épisode de Banquette. Bonjour Charles, comment
Bonjour.
Ça va ?
Ça va très bien, merci.
Au top ?
Impeccable.
Ça me fait vraiment plaisir que tu sois là dans Banquette et ça me fait aussi plaisir que tu aies profité de ton temps libre pour venir nous voir et je t'en remercie. Il faut dire aussi que du temps libre, tu en as beaucoup, en tout cas beaucoup plus qu'avant, maintenant que tu joues au FC Versailles en amateur. Et d'ailleurs, je voulais te demander qu'est-ce que ça fait de ravoir du temps libre, de plus être focus du dimanche au dimanche uniquement sur le foot.
Bah, c'est vrai que c'est les premières semaines ont été un petit peu... Des semaines d'adaptation, c'est vrai que c'est un gros changement. Maintenant, j'ai d'autres objectifs. Je passe mes diplômes d'entraîneur. Donc, à Versailles, c'est ce que je suis allé chercher. Je cherche à apprendre maintenant ce métier d'entraîneur. Et ce que ça fait, c'est que c'est quand même une nouvelle aventure qui se dresse devant moi et qui, à mon sens, est cohérente par rapport à ce que j'ai fait en carrière et qui m'excitait énormément.
Mais entre le moment où tu t'es dit... Parce qu'à un moment, tu as dit j'arrête le foot avant de revenir à Versailles. Entre ce moment-là où tu te dis j'arrête et celui où tu signes à Versailles, dans quel état d'esprit tu étais ? Est-ce que tu n'as pas eu un choc de ce retour, entre guillemets, à la vie normale, de se dire bah, t'es comme tout le monde, genre maintenant, les week-ends, t'es tranquille, quoi ?
Non, pas du tout, mais parce que j'ai... Même en étant footballeur, j'ai toujours essayé de garder entre guillemets les pieds sur terre. J'ai essayé de garder un petit peu ce qui m'a forgé, ce qui a fait de moi l'homme que j'ai pu devenir. Je viens d'un quartier, donc j'ai gardé mes racines. Pour moi, c'est mon identité. Maintenant, comme je le dis souvent, le seul truc, c'est que l'homme aussi, c'est une évolution. Et voilà, je me suis attaché, j'ai gardé mes racines, mais tout en évoluant.
Ouais. Et justement, tu peux nous raconter le premier truc que tu as voulu faire quand tu as arrêté de jouer, que tu t'interdisais, que tu ne faisais pas quand tu étais joueur ?
Manger des pizzas.
Ah ouais, ça, tu ne mangeais pas de pizza quand tu étais joueur ?
Non, je faisais attention.
Ouais.
Enfin, je veux dire, il y a des choses qu'on ne pouvait pas faire, quoi. Moi, par exemple, boire du coca, il m'est arrivé pendant 2 ans de plus en boire du tout. C'est les trucs qui a priori seraient des choses que n'importe quelle personne ferait, mais quand tu es footballeur de haut niveau, il y a des choses que tu ne peux pas forcément faire. Manger, mal manger, mal boire, faire attention à son alimentation, dormir tôt. Maintenant, je peux me permettre de dormir un peu plus tard, de veiller un peu plus et voilà.
Bon, c'est quoi ta pizza préférée ?
J'aime bien les 4 fromages.
Ah, on est ensemble.
Ah, c'est fort.
À la base.
Ah, c'est fort.
Ah, fort. C'est fort. Et c'est où la meilleure pizzeria ?
Bah, moi, j'aime bien. J'aime tout ce qui est traditionnel, quoi. Je suis pas Domino's Pizza.
Non.
Pour ne citer que. Je suis pas trop pizza industrielle. Je suis plus les pizzas, les bonnes pizzas, bien à l'ancienne ou à l'italien. Ou,
T'as 2-3 adresses dans Paris ou même en banlieue où on pourrait aller pour manger des bonnes pizzas ?
Ouais, il y en a une dans mon village qui est pas mal.
Ouais.
Venezia, c'est pas mal.
C'est pas mal ?
Ouais, c'est pas mal.
Bon, on en parlera à Guillaume, qui est l'animateur du podcast Bouffe qu'on a, qui s'appelle Bouffon. Je pense qu'il appréciera. Mais ouais, c'est vrai que ce truc de... Tu l'as vécu un peu comme une libération de dire, ça y est, je fais ce que je veux, je mange ce que je veux, je bois ce que je veux, la nuit, je fais ce que je veux. C'est...
Non, pas vraiment comme une libération, oui, quelque part, mais d'un autre côté, non, parce que J'ai exaucé mon rêve, moi, en faisant 17 ans de football. J'ai eu l'ambition d'un jour de devenir joueur de l'équipe nationale. Je l'ai été. J'ai eu l'ambition de faire plus de 300 matchs en première division, de jouer des Coupes d'Europe, de traverser le monde, de jouer une Coupe du Monde. Enfin, tout ce que j'ai toujours voulu être, j'ai réussi à le devenir.
Ouais, ouais, ouais. Et du coup, au final, j'ai l'impression que ton arrivée à Versailles, est-ce que ce n'est pas une espèce de retour aux sources pour toi, une manière de boucler la boucle ? Parce que comme tu l'as dit, tu viens d'un quartier,
Complètement, c'est
Bobigny,
un peu pour ça que je me permets de te couper la parole. Parce que ouais, c'est complètement ça. Je pense que ça se voit et que le contact que j'ai avec les joueurs, avec l'entraîneur, avec le président, avec les autres éducateurs, est complètement humain. Et c'est aussi une chose que je voulais retrouver, parce que c'est vrai que le foot, c'est bien, c'est beau, mais il y a aussi énormément de souffrance, énormément d'éloignement, énormément d'isolement. Et parfois, on devient un peu individualiste dans ce monde qui est aujourd'hui, dans ce milieu qui est complètement capitaliste, quoi.
Ouais, et du coup, tu retrouves vraiment ce côté humain, ce côté
absolument.
Un peu quartier, jouer avec les potes, les collègues, c'est ça ?
Absolument. Moi, une chose qui m'a énormément plu et qui me plaît énormément, vous savez, c'est des choses complètement con à mon sens, mais on fait un match, le match se termine, à la fin du match, il y a une buvette. Donc tout le monde est là, les joueurs sont là, on boit un coup, on mange un coup, on est ensemble, on discute, même avec les adversaires. Parfois, enfin, je veux dire, il y a cette relation humaine que je voulais retrouver aussi. Et là, je le fais, mais je suis complètement libéré.
Et ça n'existe pas dans le foot professionnel ?
Ah non, non, non. On n'a pas trop le temps avec ça. Hein.
Ouais.
Non.
Même entre
gardes d'égo, hein, plus qu'autre chose.
Même entre coéquipiers ?
Ouais, il y a toujours ce petit truc, en fait, joueur qui veut montrer qu'il gagne un peu plus que l'autre. Un joueur qui ne touche pas beaucoup va essayer de copier celui qui est plus haut, etc. Le plus haut qui va essayer d'impressionner le plus petit. Enfin, si vous savez, c'est des trucs... un petit peu qui sont propres à ce métier. Je pense aussi à tous les métiers dans lesquels éventuellement on pourrait toucher beaucoup, beaucoup d'argent. Mais c'est ces choses-là aussi que je voulais esquiver, que je voulais effacer de ma vie.
Ouais, et tes coéquipiers à Versailles, ils ne te voient pas avec un statut. Tu es ancien international, ancien gardien de Ligue 1, tu as joué à Liverpool, à Lens, dans des gros clubs. Malgré la simplicité du club, c'est sans offense que je dis ça, et ils ne te voient pas avec un statut particulier, c'est vraiment, ils te prennent comme n'importe quel coéquipier.
Bah oui, parce que, en fait, non, forcément pas, mais je veux dire, tout dépend aussi de la manière dont tu te présentes aux gens, quoi. Si j'arrive là-bas et que si j'arrive dans le vestiaire, je m'installe et que je commence à poser. Ma Rolex sur le côté. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que si je rentre dans le vestiaire, j'arrive, je pose ma Rolex, j'arrive avec des habits à je ne sais pas quoi. Enfin, voilà. Tout dépend de la manière dont tu te présentes, quoi. Moi, je pense que c'est ça. Après, la manière aussi où. Il y a aussi une façon de parler aux gens, quoi. De ne pas les prendre de haut, de les prendre pour ce qu'ils sont et de les respecter.
Ouais. Et je voulais revenir un peu sur ton enfance. Tu l'as dit, c'était très attaché à ça, j'ai l'impression. Là où tu as grandi à Bobigny.
Ouais.
Quel souvenir tu gardes du foot de ton enfance quand tu étais là-bas ?
Bah, les souvenirs que je garde du foot, c'est quoi ? J'allais à l'école à 9h du matin, je rentrais chez moi à 16h30, à 17h j'étais au stade. J'allais frapper. Je jouais avec les grands du quartier, donc on avait des matchs organisés, ou bien je prenais mon maillot, j'allais frapper contre le mur en bas de chez moi. À chaque fois qu'il y avait un match de foot, j'étais le premier. Que ce soit grand, petit ou moyen, j'étais toujours excité par le fait de taper dans un ballon. Ensuite, c'est vrai que j'ai aussi développé un esprit de compétition en essayant à chaque fois de challenger plus grand, plus fort. Donc ça, je l'ai développé au fur et à mesure de ma progression aussi dans le football. Mais c'est vrai que c'est les meilleurs souvenirs que j'ai de ça, c'est les tournois organisés avec mon club de l'époque. Des éducateurs venaient me chercher à la maison pour aller au tournoi. À 7h du matin, j'étais debout. Et je rentrais chez moi à 18-19h, parce que la finale, généralement, entre 18 et 19h, j'ai souvent participé.
Donc ça veut dire que tu étais souvent en finale?
Ouais, souvent. Ouais. Ouais, c'est vrai. Ouais. Mais en tant qu'attaquant, d'ailleurs. Et voilà, c'est ça, c'est ce qui me marque et c'est ce que j'ai vraiment, vraiment aimé.
T'as été attaquant, c'est ça?
J'étais attaquant.
Et ouais. Comment tu t'es retrouvé gardien de but?
Bah parce que
c'est vraiment
mesure,
l'opposé, hein?
Ouais, complètement. Ouais. Ouais. C'est-à-dire que moi, je pense, enfin, le déclic, ça a été Bernard Lama.
Ouais. Ancien grand gardien du PSG.
Ancien grand gardien du PSG, ouais, c'est ça. Et moi, le PSG de Lama, le PSG de Rivaldo, Guérin, Fournier, bon bref, je vais pas les citer, mais c'est l'équipe de Camboiré qui est aujourd'hui mon voisin, c'est marrant. c'est ce PSG-là qui m'a donné envie de je sais pas, j'ai réussi à m'identifier à Bernard Lama dans ce PSG-là.
Ouais.
C'est-à-dire que moi, ce qu'il faisait dans la cage, j'ai vraiment aimé le côté acrobate, le côté élastique, félin. Mmh. J'ai voulu reproduire la même chose, donc je me suis dirigé vers le poste de gardien de but.
Et du coup, je pose la question, mais est-ce que aussi c'est parce qu'il est noir, du coup, tu t'es identifié à lui
Absolument.
Ouais.
Absolument, ouais. Ouais, c'est ça. Parce que, bon, on avait. Par des signes, on a un minimum de. Allez, un ou deux gardiens par. Un ou deux gardiens noirs par. Par décennie, quoi. Mm. Donc, lui en a fait partie. Et c'est vrai qu'à l'époque, là, où en plus, forcément, il avait une exposition médiatique assez importante, vu qu'il jouait au PSG. Et il était performant. Donc, tout était réuni pour faire de lui une idole.
Ouais. Et comment t'expliques? C'est vrai que je me suis souvent posé la question en regardant des matchs à la télé, qu'il n'y avait pas beaucoup de gardiens noirs. J'ai l'impression que ce n'était pas un poste qui était où ils s'exprimaient beaucoup, où on les voyait beaucoup. Comment tu l'expliques? Il y a eu toi au milieu des années 2000, après il y a eu Steve, vous étiez un petit peu en même temps, mais en Ligue 1, il n'y en a pas eu. Enfin là, en moment, je trouve qu'il y en a un peu plus, mais c'est vrai qu'à une époque, il n'y avait pas beaucoup. Comment tu expliques un peu ce fait-là?
Bah, en même temps, il est vrai que à mon époque, il y en avait pas non plus. Pas non plus énormément de gardiens noirs. Pourquoi? Parce que généralement, c'est vrai qu'au quartier, c'est pas forcément ce qu'on fait. Parce que c'est fou ce que je veux dire, mais c'est un peu ça. Hein. C'est-à-dire que
personne n'aime aller au goal.
Personne n'aime aller au goal au quartier. Et c'est absolument ça.
Ah ouais, c'est...
Personne n'aime aller au goal, donc on développe pas cette culture-là. Après, c'est au fur et à mesure. Je pense que c'est ces dernières générations. Par exemple, quand je vois. À Reims, je vois à Troyes, je vois Steve, ça fait 10 ans qu'il est là maintenant, qu'il est à Marseille. À Caen.
Ouais, Brice Samba.
Ça a énormément bougé et je suis très très fier de ça. Je suis très très fier de ça. Et c'est pas, ça n'a rien à voir, c'est même pas, on n'a pas, même pas à parler de racisme, hein. C'est juste que c'est pas l'orientation première quoi, pour un jeune de quartier.
Ouais, c'est vrai, quand tu fais des City ou que tu fais des foot à 7 sur le synthé avec les potes, c'est... je sais pas si vous
c'est
faisiez ça
nul,
à l'époque.
C'est le plus nul, c'est le plus nul qui vaut au cas.
C'est le plus nul. Ah, sinon, il y a la course. Le premier qui touche la barre,
il
va pas au cage. Donc du coup, c'est le dernier.
Exactement.
Et t'as aussi les mecs qui font exprès de prendre des buts pour sortir très,
sortir
très vite.
Vite.
Ouais, ouais, ça, on les connaît, on vous voit, les gars. On
vous a vu. Hein. On vous a vu. Ah, ouais.
Et du coup, c'est toi qui dis, je veux devenir gardien?
C'est moi, ouais. C'est moi.
Ouais.
Bah, moi, j'arrivais... Enfin, je me rappelle qu'en moins de 11, à Bobigny, je commençais... Pourtant, j'étais très bon attaquant. Grand, costaud, belle frappe. Peut-être dû faire ça. Moi. mais ouais, non, mais je veux dire, j'arrivais à l'entraînement habillé en gardien de but et pourtant on refusait de me mettre dans la cage parce que j'avais du potentiel pour jouer sur le terrain. Mais moi, c'était non, je serais gardien de but et pas autre chose.
Ouais, donc du coup, tu t'es imposé pour devenir gardien.
Je me suis imposé, ouais.
Et c'est quoi qui t'a vraiment plu dans l'exercice de ce poste?
C'est aussi le côté solitaire. Parce que c'est un peu ma personnalité. C'est-à-dire que je suis très. Enfin, je sais pas que je suis. Ouais, on a fait le MBTI test à l'examen du BEF là, et apparemment, je suis introverti. Donc, ouais, je pense que ça match complètement avec ma personnalité.
Ouais, carrément. Ouais. Il y a une question que je me suis toujours posée aussi sur le poste de gardien, c'est comment on gère le froid. Chaque fois que je vois un match, il fait froid et il pleut.
Ça c'est pas possible.
Il y a un match où t'as rien à faire.
Ouais, ça c'est pas possible.
Je me dis, mais comment ils font? Comment ils font pour rester concentré, pour pas tomber malade aussi? Enfin, c'est des questions peut-être un peu stupides que je dénonce, mais Je te les pose, parce qu'en fait, je me suis toujours posé. Je pense
c'est
que
une très bonne question. C'est une très bonne question. Et, et je me suis même. Il y avait même des matchs, parfois, on jouait à 20h45 ou. On jouait à 20h45. Et mon problème, c'est que j'avais souvent mal à la tête. Mais je ne comprenais pas pourquoi. À l'époque, je me coupais les cheveux, j'ai toujours la boule à zéro. Mais le problème, c'est qu'avec le froid. Quand le chicot est vide, il n'y a pas un cheveu dessus. Le vent, il commence à cogner. Et là, vraiment, c'est les troubles de la vision, troubles de la mémoire, troubles de tout. Et j'ai compris ça seulement à 26-27 ans.
Ah oui, quand même, hein, ça fait un peu tard.
C'est après ça que j'ai commencé à vouloir changer de coiffure. Mais parce que jouer. Ouais, après là, c'est jouer sans cheveux, c'est compliqué. Pour rester chaud, ce qu'il faut faire, c'est bouger, etc. Mais il est vrai que même si tu n'as pas de ballon. Déjà d'une part ton corps reste chaud avec le stress mais c'est vrai que parfois des conditions météorologiques comme la pluie, enfin forte pluie ou froid intense, tu peux rien faire contre le froid, hein.
Ah ouais,
tu peux rien y faire à part rester concentré, ouvrir les yeux, mais le corps, c'est pas le faire. Hein.
Maintenant, j'ai envie de dire, il y a prescription. Est-ce qu'il y a un match où les conditions t'ont fait genre louper un arrêt ou un truc comme ça, c'était la faute de la météo et pas la faute de toi, clairement?
L'erreur est humaine, mais c'est vrai que parfois, je joue dans des conditions où il fait vraiment très, très froid. Par exemple, à Bollard, quand on jouait des dimanches, le terrain était gelé, quoi. Mais gelé de chez gelé. C'est-à-dire qu'un jour, on joue contre Sedan. À l'époque, le gardien, c'était Regnault. On sort à l'échauffement. Il s'échauffe. Et d'un coup, il va voir les délégués sur le banc de touche pour leur expliquer qu'il est impossible pour nous et trop dangereux pour les gardiens de jouer, pour les joueurs éventuellement, parce qu'il s'était ouvert le coude. En fait, il s'était complètement entaillé le coude à cause du froid. Et du coup, on a arrêté le match et on a reporté le match. Voilà les conditions météo, parfois, où il faut savoir faire face, quoi.
Ah ouais, c'est fou, même, hein. C'est quand même assez fou. Hein.
Ah, c'est dingue.
Il y a un truc que j'ai lu aussi sur ta fiche Wikipédia. Est-ce que tu as joué au Red Star?
Ouais.
Et sur ta fiche Wikipédia, il y a marqué que tu as marqué un but de 50 mètres.
Ouais.
Ce qui fait de toi un membre de ce club très fermé, des gardiens buteurs.
Ouais.
Et du coup, je voulais te demander, parce que c'est rare en plus, je voulais te demander en termes de sensation, qu'est-ce qui est le plus fort entre marquer un but en étant gardien ou faire une parade à la dernière minute d'un match?
Non, ça, il n'y a rien de plus jouissif que de faire une parade, là. Ouais. Une parade à 95e. Là. Ah oui, ça, oui.
Donc, tu échangerais tous les buts
du monde contre une parade. Ah bah oui.
Est-ce que tu te rappelles
c'est pas mon métier, hein.
D'une parade en particulier?
Une parade en particulier?
Ouais. Pff.
Non, parce que... Non, franchement, je me rappelle pas. Pas d'une en particulier. Mmh. Ah, peut-être une. Ah, si, peut-être une. Bon, celle que je mentionnerai, ce serait celle. On joue Lens-Toulouse. Et c'était mon troisième ou quatrième match. Ouais, troisième ou quatrième match avec le club. En coupe. Et j'arrête un penalty devant Mansaré. Et j'arrête le ballon main opposée. Donc, poum, poum, main opposée. Et ça faisait 4 matchs. Et là, je pense que ça a été le match déclic pour lancer ma carrière.
Ouais.
Ouais.
Et l'exercice du penalty, c'est un exercice...
Enfin, à titre personnel, je parle.
Oui, oui, j'entends. Et l'exercice du penalty, justement, pour un gardien de but, comment tu l'abordes? Est-ce que tu le vois vraiment comme la loterie ou il y a vraiment des spécificités, tu sais, tu peux déterminer un petit peu à l'avance comment ça se passe?
Avant tout, c'est une guerre psychologique. Mmh. Dans un deuxième temps, moi, je me suis souvent basé sur la course d'élan, sur les premiers pas de la course d'élan du tireur. Mais après, aujourd'hui, par exemple, au niveau de Ligue 1, au niveau professionnel, on a tellement d'outils pour perfectionner le gardien dans cette situation que c'est propre à tout un chacun. Quand je veux dire, des fois, tu as des gardiens qui préfèrent agir à l'instinct, d'autres qui sont très vidéo. Ça reste quand même très personnel et beaucoup d'instinct, quoi.
Ouais. Est-ce que c'est plus dur d'être gardien en Ligue 1 ou un niveau un petit peu en dessous? Je dis ça par rapport à la qualité des défenseurs. Ou est-ce que tu t'exprimes plus dans un club de niveau inférieur que dans un top club de Ligue 1?
Alors, ce sont, à mon sens, ce sont deux postes complètement différents. On ne joue pas au PSG comme on joue à Caen, sans leur faire en France. Mmh. On ne joue pas à Marseille comme on joue à Saint-Étienne ou à Reims, par exemple. Ce sont deux métiers complètement différents. Mmh. En termes de pression, en termes de marge d'erreur, on est beaucoup plus limité à Marseille ou à Paris que nulle part ailleurs. C'est une réalité. Ah ouais. Si tu as un arrêt à faire et que tu le fais pas, l'équipe gagne 4-1, on dira à un moment donné que le gardien n'est peut-être pas à la hauteur. Mmh. Buffon, par exemple, hier, Buffon prend un
but. Contre l'étoile rouge, ouais.
Voilà, contre l'étoile rouge, prend un but à son premier poteau. Mais en étant gardien de but, que tu peux comprendre ce qui s'est passé. On va dire qu'il a fait un mauvais match parce qu'il n'a pas fait l'arrêt. Alors que le niveau de difficulté, on ne peut pas le juger si on n'est pas dans la cage ou si on n'y a jamais été. Mmh. Je sais ce qui s'est passé, je comprends ce qui s'est passé, j'arrive à le voir ce qui s'est passé. C'est pas le même métier.
Ouais, c'est vraiment un poste à part et, pour l'analyser, il faut vraiment avoir été gardien, tu penses?
Ah oui, complètement. Mm. C'est pas le même métier.
Ouais, parce que souvent on entend ah mais là il est fautif sur le but, etc. Donc toi tu penses que vraiment pour juger un gardien, il faut avoir été gardien?
Absolument.
Ok.
Ah oui, mais absolument, complètement. Mm.
Et du coup, là, à l'heure actuelle, les gardiens que tu apprécies, c'est qui, que ce soit en Ligue 1 ou ailleurs?
Je vais citer ceux de Ligue 1. En Ligue 1, j'aime bien Anthony Lopez, j'aime bien Benjamin Lecomte.
T'aimes bien Lopez? Il est un peu kamikaze.
J'adore, moi. Avec sa taille, avec l'envergure qu'il a. Et je trouve, j'aime les gardiens au courage aussi.
Tu dis ça parce que t'as fait de la boxe taille, c'est ça? C'est ton côté un peu castagne?
Je sais pas, mais je trouve qu'il est c'est un vaillant, quoi. Mm. C'est un vaillant, c'est pas le plus grand, mais c'est le plus vaillant. C'est ouais. Kérékou. Et ça me plaît, moi, ça, ce côté agressif qu'il a, ce côté déterminé, j'aime ça, moi.
Ah, top. Donc, Lecomte, Lopez, c'est...
Lecomte, Lopez, j'aime bien Réola aussi, j'aime bien... Non, ce serait trois que je citerais.
Ok. Bah, c'est déjà pas mal. C'est un peu, j'ai l'impression.
Bon, Steve également, mais bon, Steve, c'est un vieux de la vieille, on n'en parle plus.
Non, moi, je peux pas te laisser dire Steve. En tout cas, sur cette saison, moi, je suis supporter de l'OM, donc c'est compliqué.
Moi, je suis
pour
parisien,
moi.
Donc voilà. Moi, ça s'est réglé.
Voilà, ça s'est réglé.
Moi, ça s'est réglé.
Alors, on met ça de côté, allez, ah, c'est ouais. Bon. Et donc, du coup, après, donc, je l'ai dit, t'as joué au Red Star. Et après, tu vas direction le Nord, montes, tu vas au RC Lens où tu restes 6 ans et tu deviens presque un gardien référence de Ligue 1. Tu es mm-hmm. très identifié. Mm-hmm. Mais déjà, première question, pourquoi le RC Lens?
Déjà, parce que c'était un club qui, à l'époque, nourrissait de grandes ambitions. Le club avait été champion de France juste avant. C'était un gros club de l'élite. Donc pour moi, c'était une chance inespérée de sauter dans le grand bain, quoi.
C'était en quelle année tu rejoins le RC Lens?
2001.
2001, ouais, ah. Ils sont champions en 98, je crois que c'est ça.
Ouais, c'est ça.
Ouais, c'est ça, ouais. Donc ouais, c'était, à l'époque, c'était vraiment un grand club français.
Un grand club français.
Ouais, ouais. Donc c'était... Pourquoi... Parce qu'à l'époque, c'était un top club. Pourquoi tu t'es pas dit, j'irais dans un club un petit peu moyen pour avoir plus de chances de m'exprimer?
Je vais vous le dire concrètement. C'est-à-dire que... À 17 ans, j'ai quitté ma province. Non, je rigole. L'année où je signe à Lens, je pars à Liverpool. Je fais un essai à Liverpool parce que j'avais fait un match en 3e division, donc en national avec le Red Star. Et un émissaire était là et ils m'ont envoyé faire une semaine d'entraînement avec l'équipe première de Liverpool à 17 ans. Donc je passe là-bas, ça se passe bien, je reste une semaine. Ça se passe bien, on veut me signer, mais entre-temps, j'ai signé un protocole d'accord avec le RC Lens. Mais c'était quoi déjà la question?
C'était pourquoi choisir Lens, qui est un top club de Ligue 1, au lieu d'un club, entre guillemets, du ventre mou, pour pouvoir jouer?
Ouais, donc voilà, donc, c'est-à-dire que voilà, j'avais eu une proposition de Lens qui m'est arrivée après avoir fait un essai à Liverpool. Mais Lens, pourquoi? Parce que c'est le club qui me donnait peut-être pas le plus de garantie de jouer. Parce que très franchement, quand j'ai commencé à jouer, je ne m'y attendais pas du tout. Et ce n'était pas prévu. On me donnait peut-être le moins de garantie de jouer. Mais c'est le club qui, Je me suis dit, si je vais là-bas et que j'arrive à jouer, bah, c'est jackpot, quoi. Mm. C'est jackpot. Je l'ai vu comme ça.
Mais en plus, tu es resté pas mal de temps, j'ai dit 6 saisons à Lens. Et pendant très longtemps, j'ai cru que tu avais été formé là-bas avant de faire mes recherches et de voir que, en fait, non. Mais...
Parce que je suis arrivé, j'ai joué très jeune. J'ai 20 ans, moi, là-bas. J'ai 20 ans, 21 ans. Et à l'époque, ça se faisait pas.
Ah ouais, pas du tout.
Pas de gardien de mon âge à cette époque-là. Et surtout dans les clubs, pareil. Ça se faisait pas. Il y a qu'à Lens qu'on l'a fait.
Tu remplaces qui ? Guillaume Vermuse, c'est
Guillaume
ça ?
Guillaume Vermuse, ouais.
Qui était un grand gardien de Ligue 1. Qui était un grand gardien de Ligue 1 tout court à l'époque. Ouais. Et comment tu as réagi quand on t'a dit c'était qui ton entraîneur ? C'était Müller, non ?
Alors. L'entraîneur, c'était Joël Müller à l'époque.
Ouais.
Et l'entraîneur des gardiens, c'était Michel Etor.
Et c'est lequel des deux te dit, Charles, tu commences ce soir ?
Ah, ça c'était... Ah ouais, c'est mon... c'est mon entraîneur des gardiens qui vient me voir et qui me dit, tu joues samedi.
Toi, tu fais sérieux ?
J'ai... Oh. Juste samedi. Quelle erreur j'ai fait ? J'ai appelé ma mère. Maman, je vais jouer. Il m'a dit, oh, tu vas jouer. Je dis, ouais, je vais jouer. Je dis, bon, j'arrive, hein, j'arrive. Eh, maman, c'est samedi, samedi 20h. Non, c'est bon, j'ai venu. J'ai appelé ton frère, on va venir. Et au final, ils sont tous venus. Il y avait mes frères, il y avait ma mère, il y avait ma femme, il y avait du monde. C'était un beau souvenir.
Tu te rappelles de ce premier match ?
Oh, je m'en rappelle complètement.
Ouais, bah, décris-le nous. C'était contre qui déjà ?
Bah, c'était Guingamp.
Guingamp, ouais.
Et ce qui est fou, c'est que. Enfin, ce qui est fou, ce qui est beau et ce qui est. Tu sais, dans la vie, rien ne se passe par hasard. Le premier but que j'encaisse de ma carrière, c'est Hakim Sassi, avec qui je jouais l'année d'avant au Red Star. C'est fou, hein. Il part à Guingamp, je pars à Lens. Et j'étais un petit pour lui. Donc, il signe à Guingamp, on se rencontre. Boum, il marque. C'était dingue, hein. C'est dingue.
T'avais pas le seum un peu ?
Non, j'avais pas le seum parce que j'ai. Ce que je réalisais pas, en fait, ce que je vivais. C'est-à-dire que j'étais là sur le moment, mais pour moi, en fait, le résultat n'avait pas d'importance. C'est juste le fait de passer cette étape-là qui m'importait le plus.
Mmh. Est-ce que tu étais sûr, quand ton entraîneur des gars te dit tu vas commencer, est-ce que tu étais sûr de tes qualités ? Tu étais sûr de dire, de t'imposer à ce poste ?
Non,
de
c'est
manière
venu...
définitive.
Non, c'est venu au fur et à mesure des matchs. Mmh. Au fur et à mesure des matchs, ça a été vu, c'est vu aussi avec l'accompagnement, parce que moi, il faut savoir que je n'ai pas eu de formation. C'est-à-dire que je n'ai pas fait centre de formation. C'est-à-dire que j'ai été dans des clubs compétitifs, également en Ile-de-France, dont le Red Star, qui à l'époque était en 3e division, et j'avais déjà joué avec la Nationale. Mais ça, c'était ma fin de cycle de formation, quoi, en fait. Mais moi, centre de formation, je ne l'ai pas fait. J'ai pas eu tout ça, toute cette. Enfin, je l'ai développé autrement, mon instinct compétiteur.
Ouais, du coup, t'es passé par quoi C'était le Bourget, c'est ça ?
Ouais.
Bourget, les Lilas, Bourget, après Red Star.
Exact, c'est ça.
Ouais, donc t'es passé par plein de clubs franciliens avant vraiment d'exploser
c'est ça.
En Ligue 1. Ouais.
Ouais.
Et tu t'en es servi comme une force par rapport à d'autres gardiens qui avaient fait un centre de formation classique ?
Ouais, parce que j'ai tout fait à l'envie. J'ai tout fait à l'envie et à la détermination. Et au-delà de mes qualités athlétiques, il me manquait certains attributs techniques, mais au-delà de ça, j'ai compensé avec énormément d'envie.
Mmh. Ça t'a permis de rester 6 ans au RC Lens.
Ouais.
Et c'était laquelle ta saison la plus aboutie selon toi ?
Pour moi, ce sera la 2003-2004.
Ouais.
2003-2004 et également 2007 avant qu'on. Ouais, c'est ça, l'année de mon départ aussi.
Aussi, ouais. 2006-2007,
je crois.
Ouais,
c'est ça.
Et c'est vrai cette histoire que tu as failli faire le stage de préparation avec l'équipe de France en 2006 ?
En fait, j'avais reçu une préconvocation.
Mmh.
Je recevais des préconvocations, donc voilà, c'est tout, quoi.
Ouais.
C'est tout.
Donc pour toi, ça validait un peu le niveau que tu avais à Lens
Ouais, complètement. Ouais. Je recevais encore lors de ma première année à Liverpool, c'est-à-dire qu'au cas où je jouerais, on m'aurait appelé. Mais voilà.
Et moi, je voulais te poser aussi une question sur Lens, le club. Tu es resté 6 saisons là-bas.
Ouais.
Et je profite du fait que tu sois là pour parler de l'ambiance à Bollaert. On a souvent entendu dire, même au micro de Banquette, je crois que c'était Denis Chaumier ou Swan Borsellino, je ne sais plus trop, qui avait dit qu'en France, il y a 3 villes de foot.
Ouais.
Saint-Etienne, Marseille et Lens.
Ouais.
Tu as joué à Lens,
ouais.
Tu as joué à Liverpool,
ouais.
Tu as joué en Grèce,
ouais.
Tu as joué en Turquie.
Ouais.
Est-ce que le stade Bollaert, c'est vraiment une ambiance exceptionnelle ?
Ah oui, non, ouais. C'est un terme d'ambiance, c'est, c'est les soirs de fête, c'est vraiment exceptionnel, je confirme.
Ouais. Dans tous les stades que tu as pu faire, c'est vraiment le stade le plus exceptionnel ou tu en as vu d'autres?
Ah, le stade qui m'a... Le stade,
stade quand je dis stade et ambiance, c'est l'ambiance.
Alors, j'en citerai quatre.
Ouais.
À Yaoundé, au Cameroun. Je peux même en citer plus que ça.
Bah allez, vas-y, on a le temps.
Bon. On a joué à, en Tunisie, stade olympique, là. Grand stade de l'Espérance.
Ouais.
Il était plein. La folie. À Galatasaray, la folie furieuse. Fener, Beşiktaş.
Les trois clubs d'Istanbul, donc.
Ouais, c'est, non, là, franchement, c'est, en termes d'ambiance, c'est exagéré. C'est exagéré. Et je citerai quoi encore ? Je citerai Anfield.
Ouais.
Et Old Trafford. Ça, c'est...
Ah, Old Trafford aussi ?
Ah, ça, c'était une ambiance de... C'était... En plus, bon, c'était le derby, c'était Manchester-Liverpool.
Mm-hmm.
C'était une folie.
Est-ce que j'entends souvent dire que Old Trafford, c'est un peu calme, c'est un peu à l'anglaise, quoi, non ?
Une sorte de derby. Hein.
Ah,
c'est
ouais.
La folie.
Contre Liverpool, oh, c'est le feu.
C'est... Après, bah, y avait West Ham aussi qui est pas mal.
Mmh.
L'ancien stade, c'était pas mal aussi. Mais Anfield, c'était... Mais franchement, de tous, là, Anfield, ouais, c'est le top.
Donc, tu classes Bollard parmi ces ambiances-là?
Ah, mais largement, complètement.
Mmh.
Mais il faut savoir que c'était... On jouait tout le temps à guichet fermé. À guichet fermé pendant 6 ans.
Ouais, je pense qu'on a un peu de mal à se rendre compte maintenant qu'ils sont en Ligue 2.
Exactement.
Et qu'ils font souvent l'ascenseur. Mais c'est vrai qu'à l'époque, c'était...
À l'époque, c'était vraiment, 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 vraiment le feu.
Je pense que ça fera plaisir au public lantois qui va écouter cet épisode. Et pareil, toujours sur l'ambiance, on entend souvent... Il y a des footballeurs qui te disent « Non, mais en vrai, on ne fait pas trop attention à ça. » Par exemple,
C'est mensonge, ça. Il faut arrêter
les footballeurs adverses qui vont dire qu'ils vont arriver dans un stade chaud.
C'est faux. C'est faux. Arrêter, c'est mensonge.
Donc, tu penses que l'ambiance d'un stade peut influer sur les prestations d'un adversaire?
Encore une fois, on a eu l'exemple hier.
Ouais.
Paris, heureusement qu'ils ne sont pas tombés sur une équipe un peu plus technique, parce que je peux t'assurer qu'une équipe... Barcelone, ils ont complètement craqué.
Ouais, le fameux
6-1. Ouais. Ouais, ouais. Parce qu'il y avait une ambiance de dingue et des joueurs de qualité en face.
Mm-hmm.
Donc voilà, si c'est une ambiance, ça influe forcément sur le comportement des joueurs. Quoi.
Mm-hmm.
Enfin, je veux dire, autrement, il y aurait beaucoup plus de victoires à l'extérieur qu'à domicile.
Mm-hmm. Ouais, effectivement. Ouais, ouais.
Voilà.
Et toi, ça te galvanise quand t'entends les Bollard genre en fusion? Est-ce que tu te disais, ah ouais, là, il y a mon public,
ouais.
je peux être que au top?
Ouais, ça met une forme de pression, mais après, la pression, faut l'aborder. Enfin, il y a deux sortes de pression, quoi. Mm-hmm. Celle qui stimule et celle qui paralyse. Moi, c'est vrai que ça me stimulait beaucoup, quoi.
Ouais.
Parce que je vous ai dit, j'ai tout fait à l'envie.
Tu te sentais un peu comme une rockstar sur une scène de concert?
Ouais.
Il y a un peu de ça, ouais.
Ouais, il y a un peu de ça, ouais. C'est vrai qu'il y a un peu de ça.
Savoir que les gens sont venus pour te voir et tes
coéquipiers,
ouais.
C'est ça. Dire que c'est mon show.
Ouais.
C'est mon show.
Et pour revenir un peu sur ta carrière au RC Lens, t'as révélé dans une interview à SoFoot qu'on t'avait forcé à quitter le club. Je savais pas du tout.
Mm-hmm.
Tu sais pour quelle raison on voulait séparer de toi?
Parce qu'il me restait un an de contrat et qu'il voulait passer à autre chose. Il voulait un autre gardien, tout simplement. Mm-hmm. Maintenant, c'est la manière dont ça s'est passé qui m'a déplu.
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire que moi, j'apprends que je dois quitter Lens, je suis en vacances, quoi. Et c'est RMC, je crois, RTL qui m'appelle pour me dire « Lens a signé deux gardiens ».
C'était qui ? C'était Rounier à l'époque ?
C'était Rounier et Le Chrome.
D'accord.
Ouais.
Ah ouais,
Oh, c'est assez violent, quand même.
Bah, hein, parce que
Après avoir 6 ans, 7 ans, en fait, en tout, je suis resté, puisque j'ai joué 6 ans et j'y suis resté un an.
Mm-hmm.
Donc, un an sur le banc, donc période d'apprentissage,
ouais.
6 ans sur le terrain. Et c'est vrai que c'est un épisode qui m'a marqué, hein, quand même, après, hein,
mais tu sais
la
qui,
suite de ma carrière.
Tu sais qui exactement voulait séparer de toi?
Je pense que c'est le board de l'époque, quoi, parce qu'il y avait influencé par le directeur sportif de l'époque.
C'était qui le directeur
sportif? Francis Collado.
Ok. Et comment tu l'as vécu, vraiment comme une trahison, ça?
Moi, je l'ai vécu comme une trahison.
Mmh.
J'ai vécu comme une trahison parce que, je veux dire, je suis chef d'entreprise. Demain, je ne peux pas me permettre de manquer, d'omettre le côté humain et, de mes employés, quoi. Je ne peux pas me permettre d'être tordu avec lui.
Ouais. Et du coup, à ce moment-là, tu étudies tes options, tu te dis, bah, si c'est comme ça, bah, moi je me barre. Quoi.
C'est pas si simple que ça, bien sûr. Ouais. C'est bien le problème d'être gardien de but. Quoi. Mmh. C'est-à-dire qu'il n'y en a qu'un seul qui joue et l'autre qui reste sur le banc. Ouais. Par contre, quand tu te fais venir un gardien et qu'on te fait venir deux gardiens et que toi, tu es encore là, quand tu arrives, on te dit, tu ne joueras pas. Tu regardes ta montre, c'est déjà le mois de juillet. Quelles sont tes options?
Ouais.
Aller à Caen? Aller à Auxerre? Aller à machin? Moi, de moi, Giroud prend le téléphone et appelle à Auxerre. Oui, j'ai un gardien. On part en stage. Hein. J'ai un gardien qui est avec moi et qui cherche une équipe. Est-ce que vous auriez besoin d'un gardien? Je dis, poteau, t'es pas mon agent. Qu'est-ce que tu fais, toi?
Sérieux?
Sérieusement?
Ah ouais?
J'étais pas mon agent, moi, qu'est-ce que tu me fais là? Raccroche ton téléphone.
Ah ouais, c'est incroyable ça.
Ah, c'est violent. Franchement, c'est violent. Bah, c'est très violent.
Tu m'étonnes. Et c'est là que tu te retrouves à Liverpool après?
En fait, je me retrouve à Liverpool par défaut.
Ouais, mais comment ça se passe? C'est eux qui viennent te chercher ou non. C'est ton agent qui te trouve?
C'est mon agent qui a fait le boulot. Pour être honnête, moi, dans ces conditions-là, j'ai dit, puisque c'est comme ça, je vais prendre un maximum d'argent.
Tant qu'à faire. Et donc Liverpool, même si tu savais très bien que tu n'allais pas jouer titulaire, parce que c'était Reina à l'époque.
Ouais, je suis parti. Je me suis dit que j'allais faire un an, même si j'arrive à gratter quelques matchs pour partir l'année qui suit, c'est toujours mieux. Ouais. Tu arrives avec le CV, tu reviens de Liverpool, c'est bien.
En plus, à l'époque, ils sont vice-champions d'Europe.
Absolument, c'est ça.
Donc c'est fou. Et juste pour fermer un petit peu la parenthèse Lens, tu pars en 2006-2007, donc en 2007. La saison d'après, je crois qu'ils sont relégués, c'est ça?
C'est ça.
Ah ouais? Comment t'as vécu ces déboires?
J'étais dégoûté.
Malgré dégoûté parce que je l'ai vu venir, club t'a ça. Fait, ce que le board t'a fait?
Parce que j'ai beaucoup d'amour. C'est quand même le club qui m'a sorti de mon 93. Je ne peux que leur être reconnaissant. Mais tu... Pas cracher dans la soupe, jamais de la vie.
Mais t'as dit, tu l'as vu venir, c'est-à-dire?
Ouais, je l'ai vu venir parce qu'il y avait des signes indicateurs, quoi. J'en ai vu beaucoup. J'ai vu le club se détériorer au fil de l'année. J'ai vu des joueurs partir au mois de décembre alors qu'on avait besoin d'eux, on était deuxième. Jérôme Leroy qui quitte le club, Jussier qui quitte le club, les deux meilleurs passeurs de l'équipe qui s'en vont. On n'a plus d'attaquants. On finira un milieu de couloir. Qu'est-ce qu'il faut là? Enfin, c'est pas qu'est-ce qu'il faut là, mais je veux dire, tout se passe bien, vous vendez des joueurs alors que tout se passe bien. Mais ça n'avait rien à voir avec. Ça dépassait un petit peu le football.
Ouais, c'était en dehors du cadre sportif.
Mais complètement, ça n'avait rien à voir. C'est la gestion à ce moment-là qui a été catastrophique.
Donc au final, c'était plutôt un mal pour un bien que tu sois parti, non?
Non, parce qu'on avait une ossature solide. Et je pense qu'on aurait quand même pu tirer beaucoup d'enseignements de cette saison qui s'est mal passée, qui s'est mal terminée, mais qui avait très très bien débuté. Et voilà quoi.
Ouais, c'était assez fou. Moi, je me rappelle quand le club est descendu, je l'ai vécu un peu comme si tu perdais pas un ami proche, mais quelqu'un que tu avais l'habitude de voir.
Absolument.
Voilà, tout le temps en Ligue 1, et en fait, il n'était plus là quoi. Et c'est exactement ce qui s'est passé après avec Monaco aussi, exactement. Nantes. Non, je crois que c'était un an avant. Mais on s'est rendu compte que des grands clubs historiques en fait, pouvaient descendre bien du sûr. Jour au lendemain.
Absolument. À cause Marseille est tombé aussi.
C'était il y a longtemps. Ouais.
Mais malgré tout,
oui.
Je sais pas, mais à Paris, on est toujours là. Hein. Il m'a dit, c'est fait longtemps. Hey. C'est parce que je te demande. Je te dis que s'ils sont tombés aussi. Hey, tu me dis, ça fait longtemps.
Ça fait 25 ans.
ça s'est passé quand même.
Là, on parle de truc il y a 10 ans. Ah ouais, ah, je vois ça clash. Bon, on va régler ça plus tard. On va revenir sur Liverpool. Du coup, donc tu signes là-bas, tu joues quelques matchs, mais tu n'arrives pas à t'imposer.
Ouais.
Qu'est-ce qui a manqué selon toi pour que tu arrives vraiment à t'imposer? Ou est-ce que tu voulais aussi t'imposer? C'est ça la question.
Ce qui m'a manqué, c'est... déjà un peu plus de personnalité, parce que je suis arrivé dans un vestiaire avec des égos incroyables.
Steven Gerrard.
Là, tu sens que t'es dans le haut niveau. Les mecs, c'est des monstres. Mais des monstres. Comme je les voyais comme le monstre, le vrai monstre.
C'était comment ton premier entraînement là-bas?
C'est bien de m'en parler, parce que le premier entraînement, donc je signe. Donc je signe, j'arrive, je vois le vestiaire et tout. Bon, déjà, je m'assois calmement, pas un mot. Je vais faire ma muscu. Déjà, faut savoir une chose, c'est que c'est-à-dire que à l'étranger, donc moi, ce que j'ai vécu en Angleterre, personne ne serre la main.
Ah ouais?
Ah non, on serre pas la main. Ils font caca à la porte ouverte. Bon bref, c'est-à-dire que j'arrive dans le, on fait un jeu et il y a un corner. Je dis à Xavi Alonso, t'es au premier poteau. Il me répond pas. Je dis, t'es au premier poteau. Il se retourne vers moi et me dit, yes. Mais énervé. Et moi dans ma tête, mais je vais te rentrer dans le mur. Mais non, mais c'est la première chose qui m'est venue. J'ai dit, mais je vais te rentrer dans le mur. Donc du coup, ça je l'ai gardé dans... et ça m'a marqué parce que ça a été mon premier contact avec les joueurs.
C'est assez brutal, hein.
C'est violent. Et ensuite, il y a eu des jeux où parfois je prenais des coups et le coach ne sifflait pas. Je mettais des coups, le coach sifflait. Quand je passais dans la cage, on me mettait des grosses frappes. Quand c'était l'autre, on plaçait le ballon. Il y a des trucs comme ça que tu vois, que tu comprends qu'il faut d'abord t'imposer avant qu'on te... Il faut arracher le respect.
Ouais.
Et voilà, mes problèmes, c'est que le respect, tu peux l'arracher que si tu joues. Moi, j'ai eu l'opportunité de jouer 8 matchs, c'est énorme. Mais je partais déjà beaucoup trop loin. Et puis, culturellement, j'étais trop loin des gens. Mm-hmm. Et des Espagnols.
Oui, à l'époque, c'était le Liverpool c'était Benitez. De Benitez.
Ouais, donc tout le monde parlait espagnol dans le vestiaire.
Alonso, Luis Garcia.
Exactement. Ouais. Moi, je parlais, je pouvais pas parler espagnol. Et qu'anglais, je parle qu'anglais.
Ouais.
Je pouvais pas parler espagnol, c'était pas possible pour moi. Donc ça aussi, ça a été difficile pour l'intégration.
Mmh. Mais t'as réussi à te faire des potes quand même là-bas, dans le vestiaire ?
Ouais, je me suis fait un pote. Moi, je me suis fait un pote qui est encore mon ami aujourd'hui. C'est tout, quoi.
C'était qui ?
Damien Plessis.
Ah oui, c'est vrai. Ouais. Ouais, ok. Et toujours dans l'interview que t'as donnée à SoFoot, tu dis que ton passage à Liverpool a été assez dur. T'as eu une forme de dépression après ton passage en Angleterre. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, comment c'est arrivé? Est-ce que tu l'as senti venir ou tu vraiment du jour au lendemain?
Non, je me suis pas rendu compte en fait que je déprimais. Mais c'est un jour je suis revenu à Paris. J'étais avec ma femme et des amis. On est sorti boire un coup, on avait mangé, sorti boire un coup et en rentrant j'ai craqué quoi. En rentrant, j'ai craqué. Mais en fait, je me rendais pas compte que ça allait pas. C'est-à-dire, je faisais des choses, mais je me rendais pas compte en fait que psychologiquement, j'étais pas là, quoi.
Ouais.
Ouais.
C'était dû à quoi, tu sais? Est-ce que t'as mis dans la déprime?
Ouais, bah déjà, faut savoir que moi, j'étais. La première année, il faut installer les enfants, faut installer madame, faut changer les enfants d'école. Ma petite avait 1 an, mon fils avait. Il avait 7 ans, donc il fallait les mettre à l'école. Ça a pris 4 mois. Ensuite, il faut trouver une maison, il faut ceci, il faut cela. Le petit qui ne s'adapte pas à l'école. Donc au final, peu importe. Mais pour que ça aille bien sur le terrain, il faut que ça aille bien à la maison. Il fallait gérer ça. Ensuite, donc l'année se termine et en fin de saison, on me dit d'aller à Galatasaray alors que je ne voulais pas forcément y aller. Enfin, c'est-à-dire que voilà, les conditions n'étaient pas réunies pour que j'y aille. En revenant, on me fait comprendre que je dois y aller. Donc, j'ai non, pas dans ces conditions-là. On me dégage, on me met avec l'équipe 2. D'accord ? Donc, je reste avec l'équipe 2. Et moi, sachant que chaque 6 mois, je peux partir, je ne peux pas dire à ma femme et à mes enfants, je ne peux pas les déplacer jusqu'à Liverpool et leur dire restez avec moi, alors que peut-être qu'en décembre, je vais repartir. Donc, il faut encore déscolariser les enfants, les rescolariser, ouais. Et puis etc. Donc, j'étais dans une instabilité incroyable. Ce qui a fait qu'au final, ça m'a déprimé, quoi. Mmh. Puis, j'étais plus appelé avec l'équipe 1. Je m'entraînais avec des petits 18 ans. J'avais déjà 200 matchs de Ligue 1. Je venais de faire un quart de finale de Europa League. Ça allait plus, quoi.
Et l'entourage familial, ça a vraiment compté pour toi dans tes décisions de club?
Ouais, complètement. Ouais, complètement. Bah, jusqu'au moment où j'ai eu le choix, ouais. jusqu'au moment où j'ai eu le choix, jusqu'au moment où, voilà, si je vais en Grèce, c'est pour ça aussi. Mmh. Parce que je sais qu'il y a une école française, je suis à Athènes, je suis à Thessalonique, je suis à Athènes, c'est deux grandes villes, autrement, je n'y serais pas allé.
Mmh. Et pour revenir un peu sur le sujet de la dépression, j'ai l'impression que c'est un peu un sujet tabou dans le football.
Bah, c'est tabou, ouais, ouais. Parce que c'est un aveu de faiblesse.
Mmh. Est-ce que tu avais des gens avec qui tu pouvais en parler ? Est-ce que là, enfin, je l'ai su que là, il y a quelques jours, en préparant l'interview, ben, mais...
Non, parce que ça rejoint un petit peu ce que je disais au début, quoi. C'est-à-dire que ça en fait des coups et ça s'accumule. Hein. Mm-hmm. Mais non, j'ai pas eu, enfin, j'ai jamais voulu en parler parce que en même temps, les gens sont tellement occupés par leurs problèmes, et j'ai tellement pris l'habitude en fait de m'occuper des gens qui m'entourent que parler de mes problèmes, en fait, ça m'est secondaire, quoi. Ça m'est secondaire. Et j'ai toujours été comme ça. En parlant de la dépression, il y a un événement, moi, qui m'a marqué. C'était l'année dernière, la saison... Voilà, 2017.
Ouais.
Alors, je suis à Gaziantep Sport. J'ai signé un an, donc je ne joue pas les 4 mois. Là. Gros problème, etc. Là-bas, c'était... un bordel fini. Mais j'étais déjà en train de me dire que j'allais arrêter. Donc, dans ma tête, c'était déjà... voilà. Je disais, je vais prendre le dernier sou. Après, voilà, rempli la sécurité de bagues. Et au final, ce qui se passe, c'est que... Il faut savoir qu'à Gaziantep, en hiver, il fait nuit à 3h30. À 15h30, il fait nuit. T'es à 80 km de la Syrie. T'as des avions de l'armée américaine qui survolent le terrain d'entraînement. Et le centre-ville, c'est une ambiance assez austère. J'avais un collègue avec qui on rigolait souvent et qui était tout le temps en train de, tu sais, qui est tout le temps très jovial, tout le temps de bonne humeur. Et un jour, on appelle chez lui parce qu'il se pointe pas à l'entraînement, etc. Toc toc toc, ne répond pas. 1 heure passe, 2 heures passent, il répond pas. 3 heures passent, 4 heures passent, enfin, personne ne répond. On appelle son téléphone, il ne répond pas. Donc au final, le traducteur se déplace chez lui, frappe à sa porte, il ne répond pas. Il appelle et il entend que le téléphone sonne dans le salon. Le problème, c'est qu'il ne répond pas non plus. Qu'est-ce qu'on fait ? On appelle un serrurier, il y a peut-être un problème. Ben, il ouvre la porte, il appelle un serrurier, le serrurier vient, ouvre la porte et le mec était pendu. Voilà, c'est ce que je vous dis, c'est-à-dire que la dépression, parfois, on se rend pas compte. Et le problème, c'est que étant autour de lui, on se rendait pas compte en fait que ça allait pas pour lui. Et là, tu culpabilises. Mais le problème, c'est que c'est aussi ce que je dis moi, c'est-à-dire que quand quelqu'un sent qu'il va pas bien, faut en parler. Il faut absolument en parler. Il faut s'ouvrir. Il faut ne pas croire que c'est un aveu de faiblesse parce qu'on a toujours besoin d'être aidé. Tout le monde a besoin d'être aidé. Et ce n'est pas un aveu de faiblesse. Il faut vraiment, il faut vraiment en parler.
Ouais, et qui t'a aidé, toi ?
Bah, moi, c'est ma femme. Hein. Mmh. Ouais, moi, c'est ma femme qui m'a aidé. Et c'est mon entourage. C'est Damien qui m'a aidé, Damien Plessis. C'est mes enfants. Voilà.
Ouais. Ouais. Aujourd'hui, ça va mieux ?
Ouais, aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. Ah ouais, non, aujourd'hui, aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. Mais c'est vrai que ça... Putain, merde, j'ai la gorge qui se noue. Ça a été une période assez compliquée. Ouais, assez compliquée.
Mmh. Et maintenant, j'ai envie qu'on parle de la sélection.
Ouais.
Des sélections. Parce que tu as joué en espoir, c'est ça ? Avec l'équipe de France. Ouais. Et après, le Cameroun. Ouais. Et donc, tu rejoins l'équipe nationale du Cameroun en 2013. T'as quoi ? T'as 31 ans, c'est ça ?
Ouais.
Pourquoi ce choix du Cameroun ? Est-ce que c'était important pour toi de vivre une expérience d'une compétition internationale avec une sélection ? Est-ce que tu voulais vraiment le vivre, ça ?
Ouais, je voulais surtout goûter au niveau international en senior, quoi, parce que j'ai fait les espoirs. Et quelque part, à titre personnel, en tant que footballeur, c'est important de pouvoir dire « je suis international ». Pour moi, et puis bon, le Cameroun, c'est pas une petite nation.
Ouais, c'est quand même une grande nation du football africain.
Ah oui, c'est quand même une grande nation du football. Et je peux dire qu'aujourd'hui, j'étais un lion indomptable. C'est magnifique.
C'est à quel moment tu as pris la décision de rejoindre la sélection ou c'est le sélectionneur de l'époque qui te fait des appels du pied pour que tu viennes?
Bah, moi, on m'avait appelé une fois plus jeune. Mmh. Et je me rappelle qu'à Lens, on m'a dit de... Enfin, c'est pas qu'on m'a dit de pas y aller, mais voilà, quoi. On te le fait comprendre, quoi.
Ouais.
Et moi, vu que le problème, c'est que je commençais à jouer. Je me voyais pas partir 2 mois, quitter mon club 2 mois, partir, l'autre gardien joue, je perds ma place, je reviens, je joue plus. C'est compliqué, hein.
Ouais, parce que la CAN, à l'époque, c'était...
Elle était en milieu d'année.
En milieu d'année.
C'est super compliqué, ouais. Hein. C'est compliqué pour les
gardiens. À Lens, ça a été souvent un problème. Ils ont souvent eu des problèmes avec ça parce qu'il y avait beaucoup de joueurs africains.
Absolument.
Et arrivés en janvier, février, ils n'avaient plus d'équipe.
Voilà, on n'avait plus d'équipe, c'était ça.
Et c'était pour ça que tu as hésité
C'est pour ça que je ne suis pas allé. Mm-hmm. Parce qu'autrement, je perdais mon job.
Mais ça, tu as dit qu'on te l'a fait comprendre aussi. C'est-à-dire qu'il y a des gens au club qui t'ont dit c'est mieux que tu n'y ailles pas ou ils t'ont dit.
Ouvertement, mais on te l'a fait comprendre.
Ouais. Ils te faisaient aussi comprendre que c'était mieux d'attendre l'équipe de France aussi.
Ça, c'est plus personnel, mais disons que on te fait surtout comprendre. Bah ouais, enfin, on te fait surtout comprendre que qu'il serait préférable que tu réfléchisses à 2 fois.
Ouais.
Ouais.
Et qu'est-ce que tu réponds aux gens qui disent, qui trouvent que c'est problématique, ces joueurs qui sont formés en France, qui ont joué en équipe de France Espoir et qui finalement finissent dans d'autres sélections? Moi, je te donne mon avis personnel. Moi, j'ai rien contre ça. Je pense que si on a cette double culture, on peut l'exprimer dans la vie de tous les jours, on peut aussi l'exprimer dans l'exercice de notre
fonction.
De notre fonction. Donc,
je trouve que.
Donc voilà quoi. Donc ouais, pour moi, pas se priver de jouer avec une sélection parce qu'on a été formé.
Je partage ce point de vue. On a deux identités.
Ouais.
Donc pour moi, ça reste un débat d'actualité, mais c'est un faux débat quoi.
Ouais. Et tu t'es bien senti directement quand t'es arrivé dans la sélection? Regardez comment tu t'es senti quand t'es arrivé dans la sélection.
Comment je me suis... Bah, c'était très bizarre. Hein.
Ah ouais?
Ouais, c'était bizarre.
C'était qui le sélectionneur à l'époque?
Quand je suis arrivé, c'est un petit espagnol...
Ah, c'est pas Javier Clemente, non, c'est pas ça, là?
Ouais.
C'est lui?
C'était ça,
ouais. Ouais, Javier Clemente, ouais.
Ouais. Il pensait tout savoir de l'Afrique, le mec, il habitait même pas là-bas. Il n'est même pas Yaoundé. Je te jure.
Ah ouais, et au final, tu fais la Coupe du Monde avec le Cameroun.
Ouais.
Coupe du Monde 2014 au Brésil. C'était un rêve de la jouer?
Ouais, c'était un rêve de la jouer, ouais.
Ouais. Est-ce que tu fais comme quand tu... Commence ton premier match à Lens. Est-ce que tu appelles ta mère? Est-ce que tu lui dis « Maman, là, je vais jouer à la Coupe du Monde »
Non, j'ai essayé de le vivre différemment. Mm-hmm. Bah, j'avais déjà 31 ans. J'ai essayé de le vivre un peu différemment, mais il y a trop de problèmes au sein de la sélection pour que ça se passe bien.
Ouais.
Ouais. Donc, je ne l'ai pas apprécié comme j'aurais dû.
Ouais, vous êtes dans le groupe de mémoire. Il y a le Brésil,
la Croatie et le Mexique.
Mexique, ouais.
Ouais.
Et je sais plus ce que vous faites comme résultat. Vous perdez les 3 matchs, non?
On perd les 3 matchs. On prend 4, 4 et 4. Non, 1, 4, 4.
Ah oui, quand même.
Ah ouais, quand même. 1, 4, 4, rentrez chez vous.
Ah ouais, merde.
Ah ouais, ouais.
C'est compliqué, ouais.
Ah ouais, c'était...
Et il y a un truc qui s'est passé, qui a fini même en même sur Internet. Mm-hmm. C'est le fameux coup de coude d'Alex Song sur un joueur croate.
Ouais.
Et je me suis dit, non, mais... C'est peut-être Charlie Tange qui lui a donné quelques cours de boxe
taille. De boxe taille.
Ouais, t'as fait de la boxe taille. Tu lui as donné des petits coups. Tu peux le dire, tranquille. C'est à cause de toi qu'il a mis le coup de coude.
Non, parce qu'en plus, je l'avais pas vu, moi. Enfin,
ah ouais,
je le vois courir avec le ballon. En fait, je vois le joueur croate s'effondrer. Et je me dis pas. Enfin, je me dis jamais qu'elle a pour chasser avec son coude pour le taper. Je dis, mais même non. Mais je veux dire, tu vois ça nulle part. Ouais, non, même pas au rugby.
Mais non.
Même pas au rugby, tu vois ça.
Même Luis Suarez, il fait ça discret.
Même Suarez, il était plus discret. Pourtant,
il s'est fait gauler, ouais.
Il s'est fait gauler, ouais. Non, mais j'ai réalisé uniquement après que qu'Alex a mis un coup de coude au Croate.
Ouais.
Moi, ça fait rire aujourd'hui, mais c'était pas marrant pour lui.
Ah, ça j'imagine, ah, ouais. Et malgré tout, malgré cette Coupe du Monde un peu ratée à cause des problèmes internes, est-ce que
complètement ratée.
Complètement ratée, ok.
Complètement ratée, ah ouais.
Tu gardes quand même un bon souvenir de ton passage en sélection?
Bah, mon plus beau souvenir, ça a été les matchs à Yaoundé.
Ouais.
Ouais, c'est les souvenirs que je garderai, ça. Ceux-là, ce sont mes souvenirs parce que j'ai joué en Afrique. J'ai joué au foot en Afrique. Enfin, juste par rapport à ce que ça représente, quoi. Pour moi,
C'est Mais qu'est-ce que ça représente justement?
Énormément, ça représente jouer au foot sur la terre de mes ancêtres. Je suis très attaché à ça. Moi, c'est ce que ça représente pour moi, quoi.
Et qu'est-ce que tu penses de l'évolution du football africain? Est-ce que tu penses qu'on est sur la... Enfin, je dis on. Parce que je suis aussi d'origine africaine, donc je me suis inclus directement.
faut dire.
Ouais, ouais. Non, mais en plus... je viens d'y penser à l'instant, là. Moi, je suis d'origine comorienne. Et là, j'ai vu qu'en janvier ou février, il y a un gros Cameroun-Comore. Il me semble que le Cameroun a été retiré de l'organisation de la CAN. Et si les Comores gagnent, ils sont qualifiés aux dépens du Cameroun.
Sans surprise.
Donc là, moi, je te dis, je pense que je vais prendre ton numéro. Et si on gagne, je te chambre. Je te le dis tout de suite. Non, mais blague à part, qu'est-ce que tu penses de l'évolution du football africain? Est-ce que tu penses qu'il est dans la bonne direction? Est-ce qu'enfin, on arrivera à avoir une sélection qui dépasse l'écart d'une Coupe du Monde un jour?
Bah, en fait, le problème du football africain n'a jamais été... un problème en termes de quantité de joueurs et en termes de qualité, en termes de talent, ça n'a jamais été le problème, ça. Ce problème qu'on a eu, c'est toujours été les problèmes d'encadrement, fédération. C'est ce qui nous empêche d'avancer.
Ouais.
Il n'y a que ça.
De voir, tu penses aussi notamment aux sélectionneurs étrangers.
Et puis également le fait de recruter trop de sélectionneurs étrangers. Pour l'intérêt.
Ah, c'est vrai qu'il y a très, très peu de sélectionneurs africains.
Bien sûr, il y en a que très peu. Il y en a que très peu. Il y en a que très peu qui acceptent leurs conditions d'entraîner à l'étranger. Moi, j'aime bien les entraîneurs comme, par exemple, Hervé Renard.
Ouais.
Des entraîneurs comme... Claude Leroy.
Ouais.
Voilà. Ces entraîneurs-là qui acceptent la culture telle qu'elle est et qui la respectent. Ça, ce sont des entraîneurs que je respecte et que j'apprécie énormément. Mais j'en ai vu, moi, des mercenaires également qui viennent pour le gros chèque, pour le net d'impôt. Ils se prennent pour président du pays, limite, qui ne respectent pas la culture, qui ne résident même pas dans le pays qu'ils coachent, qui sont uniquement là de passage. Et au final, ils n'apportent rien. Ils empêchent le football africain de se développer. Mais ça, c'est à croire que prendre un entraîneur étranger, quelle que soit sa compétence, est toujours mieux que de prendre un local qui, très souvent, a grandi avec les joueurs qui sont aujourd'hui en sélection, qui connaît ces joueurs-là, qui connaît le contexte. Il faut juste savoir former les entraîneurs. Former les entraîneurs, et vous verrez. Ensuite, vous n'aurez peut-être même plus besoin d'aller à l'extérieur.
Et on arrive déjà à la fin de cette interview. Je crois que j'ai oublié un truc sur Lens. Tu as failli les jouer, les rejouer avec Versailles. Finalement, tu n'as pas vu parce que tu étais blessé. Est-ce que ça a été un regret pour toi de ne pas jouer contre l'ancien club qui t'a fait devenir ce que t'es devenu?
C'est ce que je disais hier, non, c'est-à-dire que non, ça n'a pas été un regret du tout parce que je ne me vois plus comme un footballeur, je ne suis plus carriériste. Le football, c'est derrière moi, sur le terrain, je parle.
Ouais.
Toute l'implication et les sacrifices que j'ai faits, c'était avant. Maintenant, je suis dans une autre conception du football. Je suis dans le switch, donc je ne suis plus... Non, ça m'a pas plus dérangé que ça.
Et le switch, c'est devenir entraîneur?
Entre autres, ouais.
Ouais.
C'est ça.
Entraîneur des gardiens ou entraîneur?
Ah non, entraîneur des gardiens.
Ah, des gardiens?
Ah, j'entraîne ma race.
Ah,
ah bah oui.
Ah ouais, parce que je...
Ah okay. Bah oui, nous on s'en fiche de vos 4-4-2, 4-5-1, etc. On n'a rien à faire, nous. C'est particulier, gardien de but. C'est très particulier, gardien de but.
D'accord, bah moi je pensais que c'était... ce que j'avais lu, tu passais tes diplômes d'entraîneur. Moi, je pensais que c'était pour devenir entraîneur d'une équipe, mais en fait, t'es entraîneur des gardiens.
Bah en fait, okay. il faut d'abord valider son brevet d'entraîneur de football pour pouvoir ensuite faire le certificat d'entraîneur de gardien de but.
D'accord, ouais. Ok. Et tu sais comment tu comptes entraîner tes gardiens?
J'ai déjà une idée de ce que j'aimerais qu'ils fassent, ouais.
Ouais,
ouais.
Un peu de boxe thaï.
Sans rigoler, ça peut aider.
Ah, ça?
Ouais.
Ouais.
Ça peut aider, un ça peu peut comme, développer ouais. l'aspect mental.
Ouais. Ok, bah écoute, on a hâte de te voir entraîneur des gardiens. Il y a un club dans lequel tu aimerais aller en particulier? Si tu avais le choix, si demain on te dit Charles, tu signes où tu veux. Tirer où?
Où je veux.
Ouais, où tu veux. N'importe quel club, n'importe quelle sélection, où tu veux.
Sélection. Sélection, sélection. Non, bon, club. Peut-être Paris.
Paris Saint-Germain, pas Paris FC.
Ouais,
Ouais.
Paris Saint-Germain.
Ouais.
Peut-être Paris Saint-Germain. Et sélection le Maroc parce qu'il fait toujours beau, quoi. Ouais.
Même pas le Cameroun. Ah non, jamais. Ok.
Non, non.
Bah écoute, Charles, merci beaucoup d'être venu dans Banquette et d'avoir pris le temps de parler un peu de ta carrière en long et en large. Et puis, bah, on te voit sur les pelouses de Versailles et d'Île-de-France, en fait, c'est ça, non?
C'est ça, ouais, c'est
Ouais,
ça.
toutes les pelouses d'Île-de-France.
C'est ça. Peut-être pas toutes. Hein.
Pas toutes.
Des fois, j'irai pas. Hein. Ah non, des fois, j'irai pas.
Là, j'ai vu, moi, j'habite à Aubervilliers en ce moment, là, et j'ai vu que tu as un match contre Aubervilliers. Je crois en mai.
Ouais.
J'espère te croiser sur le
J'ai la
terrain.
belle famille encore j'ai la belle famille encore à Bobigny,
À Bobigny.
donc je passerai
Bah écoute, avec plaisir, on ira voir tes performances avec Versailles.
Venez me voir plonger sur le dos, c'est impressionnant. C'est la
Ça
magie.
marche. Allez, bah, je te souhaite une bonne journée et à bientôt,
Merci
Charles. Merci
également.
beaucoup.
Merci.
Banquette est une émission produite par Nouvelles Écoutes et animée par moi-même, Abdallah Swadri. Générique signé Aurore Meyer-Mailleux avec la musique de Mehari. À la prise de son, Ashley Tola. Au montage et mixage, Laurie Galigani. Merci à Charlie Tange d'avoir accepté notre invitation. On est présent sur tous les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram. Alors retrouvez-nous là-dessus. Et pensez à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast si vous avez aimé cet épisode. Et nous, on se retrouve non pas dans 2 semaines comme d'habitude, mais en 2019. Alors je vous souhaite à tous d'agréables fêtes de fin d'année et je vous dis à très vite. Ciao!